Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la parentèle. Enchantée, je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents.
Nous.
Avec moi en studio, Rémi, le
oui,
papa,
qui
prend de l'avance.
Oui, je te coupe la parole et je m'excuse, oui. Alors, nous sommes les parents de Lou et Zoé, deux petites filles bien curieuses que l'on essaye d'ouvrir sur le monde. Et en parlant d'ouverture sur le monde, ce mois-ci, nous recevons Mathieu Barbance, auteur, compositeur, interprète. Il était à la MCC de Bourg la semaine dernière pour le spectacle Né quelque part. Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
On rappelle qu'il est bien évident qu'il y a mille façons d'être parent. N'oubliez jamais, on est le meilleur parent possible pour ses enfants et souvent les plus indignes pour les autres.
Et ce mois-ci, émission de Noël où nous tenterons de montrer qu'avec nos enfants, la solidarité s'écrit au pluriel.
Et pour ma part, je tenterai de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Zoé quand elle ne veut pas changer ses habitudes.
Et Mamilo, tel le père Castor, reviendra conter les histoires. Mais d'abord, place aux brèves.
Lyon, capitale des Lumières.
Et des idées pas trop cons concernant le congé paternité.
On connaissait l'initiative de l'entreprise LDLC, je vais réussir à le dire, de passer le congé de paternité de 25 jours, prévu par la loi, à 20 semaines.
Eh bien, la ville de Lyon coupe la poire en deux pour ses agents et propose 10 semaines, soit plus du double quand même de la durée légale.
C'est propre. La maltraitance dans les crèches existe. Quand il s'agit d'entasser des bébés, d'économiser sur le change, on est bien dans le domaine de la maltraitance.
Et quand on décide de faire des économies sur tout, de sous-payer ce personnel qui fait un boulot extraordinaire et de négliger la formation des agents, c'est notre institution qui est alors maltraitante.
L'Assemblée nationale a voté avant-hier la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire.
Espérons que les revendications portées par les collectifs comme Pas de bébé à la consigne soient enfin entendues pour offrir les premiers pas, les meilleurs dans, à nos petits. Les meilleurs premiers pas dans la vie à nos petits, j'ai réussi.
Grand Papy Rock, c'est l'histoire d'un projet entamé en 2021 par Sylvain et Simon, accompagnés de l'illustratrice Cécile Aguelin.
L'idée, raconter l'histoire du rock aux enfants avec un livre CD, un vinyle. Grand Papy Rock, c'est maintenant une exposition à découvrir en musique et en dessin pour les petits. Et c'est à la MCC jusqu'au 29 décembre, Cynthia.
Un cadeau pour la vie, c'est le nom de l'initiative d'Emmaüs pour valoriser les cadeaux de seconde main.
Un objet, un jouet, c'est parfois une histoire, une émotion, une envie. Et c'est souvent cette histoire qui fait que nous préférons remiser l'objet dans un grenier plutôt que s'en séparer.
Emmaüs propose justement aux enfants une opération de seconde main qui consiste à déposer un jouet, un livre, un objet de décoration en l'accompagnant d'un petit mot qui raconte l'histoire de cet objet.
Voici une belle idée pour préparer un Noël plus solidaire, tiens.
À Bourg, il y a une antenne Emmaüs rue Charles Robin, mais le grand lieu, c'est bien sûr à Servas.
Oui, à Servas, tout à fait. Et juste à côté de Servas, à Laon, la commune s'est dit que pour faire rêver les enfants, il fallait que le Père Noël arrive en hélicoptère.
Ah ouais, ouais. D'accord. Has-been le traîneau et vive les célébrations pour la conférence du climat à Dubaï, par exemple.
Ouais, c'est ça, peut-être.
On est
ouais. Bien. Décidément, nos régions ont du talent dès lors qu'il faut trouver comment balancer encore plus de CO2 dans la tronche. Pour reprendre le nom de ton nouveau spectacle, Mathieu, l'hiver sera peut-être chaud, hein.
Ouais, bah, il sera chaud peut-être dans le climat et peut-être qu'il sera chaud dans la rue aussi.
Dans la rue aussi, c'est ça.
Salut les jeunes.
Le Charron. Très loin d'ici, en haut de la colline noire, une belle maison abritait une famille de chats. Celle de M. Casimir et de Mme Caroline. La famille était réputée pour la couleur de sa fourrure qui brillait au soleil comme des morceaux de charbon bien luisants. Monsieur Casimir en était très fier. Depuis longtemps, Monsieur Casimir et Madame Caroline rêvaient d'avoir des petits. Un jour, Madame Caroline donna naissance à 4 petits chats, dont la fourrure était d'un beau noir de charbon, comme celle de leurs parents. « C'est le plus beau jour de ma vie !» s'écria Monsieur Casimir. « Je n'en suis pas si sûre !» murmura Madame Caroline. « Tu n'as pas vu le 5e !» Monsieur Casimir, très étonné, aperçut alors un petit chat qui ressemblait à ses frères et sœurs, sauf que sa fourrure était complètement rousse. « C'est incroyable! Quelle honte! Un chat roux dans la famille! Que vont dire les voisins ?» En plus d'avoir une fourrure différente de celle de ses frères et sœurs, Rousseline n'en faisait qu'à sa tête, ce qui agaçait beaucoup ses parents. Chaque fois que la famille partait en promenade, la petite Rousseline marchait toujours la dernière. Les chats du voisinage regardaient passer cette drôle de famille. « Vous avez vu cette petite chatte toute rousse ?» chuchotait-il. Et Rousseline s'obstinait à n'en faire qu'à sa tête. Elle ne voulait pas boire de lait, seulement du thé. Elle ne faisait sa toilette que lorsque ses frères et sœurs s'étaient endormis. Et elle faisait encore la grasse matinée quand tous les autres avaient déjà fait leur toilette du matin. La première fois que ses parents voulurent lui apprendre à attraper les souris, elle joua et dansa avec elles comme si elles étaient ses meilleures amies. Les chats du voisinage, indignés, refusèrent désormais de fréquenter la famille Casimir. Tout devint très silencieux sur la colline noire. Monsieur Casimir en fut si triste que de longs poils blancs strièrent sa fourrure noire. Un beau jour, Rousseline décida qu'elle ne voulait plus dormir dans le même panier que ses frères et sœurs. Elle alla s'installer dans la niche du chien Gribouille. On avait donné ce nom-là au vieil épagneul parce que son pelage était parsemé de taches de toutes les couleurs. Se lier d'amitié avec un chien, personne n'avait vu ça dans une famille de chats. Le lendemain, Madame Caroline dit à sa fille « Comment oses-tu être amie avec un chien ?»« Maman, dit Rousseline, laisse-moi décider de ce que je veux faire de ma vie. Je t'aime beaucoup. Ce que je dis, c'est pour ton bien. » »« Je préfère partir, » insista Rousseline. Elle quitta la maison et sur la colline noire, la vie redevint comme avant. Les voisins, les amis, revinrent rendre visite à la famille. Un jour, oncle Cunibert leur révéla que Rousseline avait de mauvaises fréquentations. On l'avait vue avec des chats roux et même avec des chats tigrés. « C'est la faute de cet horrible chien avec qui elle habitait. J'ai toujours dit que l'on ne pourrait jamais en faire une chatte comme il faut. » Cela faisait très longtemps maintenant que Rousseline avait quitté la colline noire. Un dimanche, M. Casimir et Mme Caroline étaient assis devant la télévision quand Rousseline apparut sur l'écran. Elle présentait une émission sur le respect et les différences. Ses fans, des chats de toutes les couleurs, l'acclamaient avec joie. « C'est Rousseline !» s'écria Mme Caroline. « Je sens déjà me pousser des poils blancs !» gronda M. Casimir. Il regarda pourtant l'émission jusqu'à la fin. Quelques jours plus tard, alors que M. Casimir était en train de dresser la table, il entendit soudain frapper à la porte. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda Rousseline. « Je voudrais vous présenter mes enfants. Je n'ai pas pu venir plus tôt, avec toutes ces conférences. » D'adorables petites boules de poils rousses la suivit. Et, caché derrière les autres, un petit chat noir avançait en trébuchant. « Oh, celui-là, c'est mon portrait craché !» s'écria M. Casimir, flatté. « Oui, dit Rousseline, noir comme le charbon. Je l'ai appelé Casimir en ton honneur. Je me demande ce qu'il deviendra. » car il ne fait jamais rien comme les autres. Madame Caroline accepta ses nouveaux petits-enfants avec amour et M. Casimir ne se fit plus aucun poil blanc. On dit qu'il consacre tout son temps à ses petits-enfants car sa fille Rousseline donne très souvent des conférences. Au fait, on dit aussi que l'on n'a jamais vu autant de voisins et d'amis dans la maison de la colline noire. Qui n'aurait envie de fréquenter la famille d'une célèbre personnalité ?
Salut les jeunes! Oui mon petit, c'est la vie!
T'as compris très tôt, depuis l'enfance, que tu portes le maillot de la différence. Même quand tu marches droit, on te montre du doigt. Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi. Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire, parce que ton père est né sur l'autre hémisphère. Toi tu ne les connais pas, les rues de Kinshasa. On te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. Dans la cour d'école au ballon prisonnier, on te choisissait toujours le dernier. Les histoires se répètent et tu ramasses les miettes. Jamais sur un CV, t'as pu coller ta tête. Les remarques sournoises, les regards qui blessent. Préjugés qui glacent, contrôle aux faciès. Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire. Mais les petits ruisseaux font les grandes colères. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. C'est vrai qu'on la trouvait plutôt jolie. Mais qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Y'a encore du boulot pour que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano.
Éduquer nos enfants à la différence. Ça peut paraître évident hein, quand on est parent, du moins si on est normalement constitué. Ça fait un peu partie des grands principes qu'on déclare avant même d'avoir son premier marmot. Moi, le jour où j'aurai des enfants, je leur apprendrai à être tolérant. Ce mot tolérance, non. Qu'est-ce que je peux ne pas l'aimer ? Moi, derrière la tolérance, j'entends l'acceptation, oui, mais pas l'accueil. Non. Et encore, c'est une acceptation en demi-teinte. Je te tolère, tu as le droit d'évoluer dans mon monde, mais pas trop près hein, quand même. Bref, ce que je souhaite pour mes filles, ce n'est pas tant qu'elles tolèrent, mais tout simplement que notre éducation leur permette de ne même pas se poser la question. Que la relation à l'autre ne soit pas le fruit d'un effort de tolérance, mais simplement qu'il soit naturel d'accueillir et qui que ce soit dans sa pluralité et avec son histoire et son parcours. Qu'elles osent la rencontre sans aucun a priori, en fait. Bon ok, les bases sont posées, mais après vient la confrontation à la réalité. Eh oui, bienvenue dans le vrai monde. Car la candeur des enfants étant ce qu'elle est, il arrive parfois que nos jolis principes soient mis à l'épreuve des questions toutes mignonnes mais cruelles de vérité de nos enfants qui grandissent. Dis maman, pourquoi mon nouveau copain de classe, il n'est pas resté dans son pays ? Mince alors. Comment je réponds à ça, moi, sans casser l'innocence de ma grande louloute de 6 ans ? Éduquer à la différence, oui, mais j'ai pas forcément envie de lui raconter la guerre, l'exil et l'horreur des parcours migratoires et tout ce qui va avec moi. Bon, en vrai, on fait ce qu'on peut pour expliquer l'inexplicable parfois. Et puis sinon, si comme moi vous assumez votre statut de parent indigne et que vous voulez déléguer, il y a aussi de chouettes artistes qui ont pris à bras-le-corps cette vaste question et qui ont décidé de s'adresser tout en douceur aux enfants d'ici pour leur raconter l'histoire des enfants partis d'ailleurs. Mathieu Barbance, bonjour.
Oui.
Alors Mathieu, les auditeurs et auditrices de Radio B te connaissent peut-être puisque la semaine dernière, tu étais l'artiste de la semaine et Michel te présentait alors comme un artiste qui rappelle le temps où Juliette Gréco et Miles Davis donnaient foi en l'humanité. On écoute.
S'il se présente en solo, Mathieu Barbance aime jouer collectif et ce goût de l'échange imprègne la plupart de ses chansons. Depuis pas mal d'années, l'artiste et sa contrebasse se sont frottés à pas mal de monde. La compagnie Johnny Moom, le Brinkball, Tango Léon. Et à force de gueuler dans les rues, d'user les planches des théâtres, de pisser dans un violon, Mathieu Barbance a pris sa grand-mère à son cou pour se faire leur moment à deux et travaille depuis sans relâche. Il a fouillé dans les profondeurs de sa contrebasse et en est sorti de toutes nouvelles chansons rien qu'à eux.
Copine du lycée. En photo sur la plage, manifestation demain pour Théo et Adama. 12 astuces pour réduire sa facture de chauffage, pétition contre le taffeta.
Le 22 février 2019, Mathieu Barbance a sorti un premier album intitulé « Tout contre ». Il a le savoir capté, expert ex-conviction politique lancée en plein théâtre de rue, il reste empreint des espérances rouges, révolution de la dite compagnie. L'air de rien, derrière les chansons de Mathieu Barbance, sans prétention, un discours se fait jour, jamais moralisateur. Tour à tour narquois et tendre, fustigeant les mots phallocrates, apostrophant les convictions d'antan ou encore les fraternités choisies. Le discours de Mathieu Barbance passe également par la musique, jazzy, swing, douce, des cuivres tonitruants, rappelant le bon temps où Miles Davis et Juliette Gréco, se tenant la main, donnaient foi en l'humanité.
Mes premiers cris, je les ai poussés à la maternité des bleuets, celle montée par les métallos de la CGT. À peine né, me voilà syndiqué.
Sur scène, quand le public lui demande de reprendre son fils de coco, on entend le respect qu'il porte à tous ces gens qui militent pour le partage. Mathieu Barbance, un artiste révolté, est poétique. Il sera en concert avec sa contrebasse à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse le jeudi 30 novembre 2023. Mathieu Barbance, c'est l'artiste de la semaine sur Radio B.
Belle présentation, n'est-ce pas?
Ah oui.
Allez, c'est fait,
plaisir.
Notre Michel.
Merci.
Alors, pour notre part, nous t'avons découvert il y a un an à un festival dont nous avons déjà parlé ici, Le Bonheur des Mômes, au Grand Bornand. Et tu nous avais tiré malgré toi d'une sieste au soleil pour nous captiver par tes mots et ton récit.
Et cette fois-ci, c'est à la MCC de Bourg que ta contrebasse et ton ukulélé se sont arrêtés pour venir jouer ce même spectacle au nom bien familier, Né quelque part.
Du coup, Né quelque part, c'est quoi?
Eh ben, c'est d'abord une chanson, c'est la chanson de Maxime Le Forestier. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu la chanson de Maxime. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas d'être né à Alger ou ailleurs. Et c'est le début de... Tu parlais de tolérance, etc. Et c'est le début en fait, des inégalités qu'on a chacun. Et que si le monde est plus égalitaire, eh ben, on arrivera justement à ce que... Si on est à Gaza ou si on est à Tel Aviv, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc voilà, c'était cette base-là. Moi, il se trouve que mes filles... en fait, j'ai découvert l'histoire en lisant le roman à mes filles. C'est un j'aime lire. Donc moi, j'étais abonné à J'aime lire. Fils de prof, abonné à J'aime lire. Il n'y a pas le choix. Et donc, moi, mes enfants aussi sont abonnés à J'aime lire. Et quand j'ai lu l'histoire, j'ai trouvé tellement belle, tellement bien racontée. C'est vraiment le regard des enfants. Mais en fait, tout est dit. Il n'y a pas de jugement, tout ça. C'est juste l'histoire, mais... L'histoire, l'humanité, elle dit tout ce qu'il y a à dire sur ce parcours-là de la migration, pourquoi ils partent, comment ils sont accueillis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'habitais à Saint-Denis, à côté du Stade de France. Mm-hmm. Et donc, à l'école, c'était les seuls qui parlaient que le français. Tous les autres, ils avaient leur langue maternelle plus le français. Et puis, on a déménagé dans une petite bourgade dans le Perche où il y avait beaucoup moins de monde. C'était moins mélangé. Et une des premières choses que nos filles nous ont dit, c'est « Les enfants, ils sont racistes à l'école. » Alors, je dis « C'est pas possible, ça. On ne peut pas être raciste à cet âge-là. » Donc, c'est parce qu'ils répétaient ce que l'on disait dans la maison. C'est normal. Enfin, voilà, Et donc, je me suis dit « Il faut qu'on donne un autre discours que celui qu'on entend partout dans les médias, même au sein du gouvernement. Et il faut qu'on ait un autre récit. Et quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut raconter aux enfants. Et depuis, ça fait 5 ans que je joue et ça marche toujours aussi bien. Les enfants, ils accrochent à fond. Et comme ça, ils se font leur propre histoire à eux.
Et justement, alors pourquoi est-ce que tu as fait un spectacle plus particulièrement à destination des enfants?
Et bien justement, ce que je disais un petit peu avant, c'est qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas ce problème de couleur de peau, d'origine, de machin. On prend les gens comme ils sont. C'est après, c'est la société, c'est la culture qui nous dirige plus ou moins dans des bonnes directions. Et donc, je voulais donner ces clés-là parce que je pense que c'est un âge. Là, le spectacle, c'est à partir de 7 ans. Vous savez, je pense que dans votre émission, vous analysez, c'est ça bien. Mais les premiers mois, l'enfant, il est juste au sein de la maman. Puis après, c'est son couffin. Après, c'est sa chambre. Après, c'est sa maison. Et à 7 ans, ça y est, 7-8 ans, on commence à voir
le monde.
Le monde. Voilà. On commence à se dire... Moi, je me souviens, la première fois, mais c'était plus vieux. Je sais pas, 9-10 ans. La première fois que j'ai découvert qu'au moment où je vivais maintenant, à l'autre bout de la terre, il y a des gens qui faisaient la guerre, ou des autres qui étaient en prison, ou des gens qui, de l'autre côté, qui faisaient l'amour. Enfin voilà, se dire qu'au même endroit, au même moment, sur la planète, il y avait des vies différentes, ça, c'était un peu vertigineux. Ça m'a fait, voilà. Et donc, c'est un moment où, c'est un âge où cette histoire-là les adhère à fond.
Okay. Alors nous, comme on l'a dit avant, tu avais vu en spectacle au Grand Bornand.
Ouais.
Donc c'était il y a un an, ton spectacle a bien voyagé depuis. Ça fait 5 ans qu'il tourne.
Voilà, ça fait 5 ans qu'il tourne et il tourne énormément. Le phénomène de Grand Bornand, c'est que à la fin du spectacle, ce que je dis, alors moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est de faire le spectacle seul pour qu'il soit léger, qu'il soit pas trop cher. Et donc ça, c'est une façon aussi de militer pour qu'il soit joué partout. Et donc, à chaque représentation, c'est ce qui s'est passé au Grand Bornand. À la fin, je dis, bah, si vous voulez, je peux revenir dans votre école, votre MJC, etc., etc., votre festival. Et du coup, bah, c'est comme ça que le chemin est passé jusqu'ici. Et donc, je joue beaucoup. Alors là, en ce moment, c'est en novembre-décembre, c'est un moment où il y a beaucoup d'événements, parce qu'il y a le Festival des Solidarités, il y a Migrants Scène, il y a la Journée de l'Enfant, etc., etc. Et du coup, c'est une période où je le joue énormément. Donc là, j'ai plein de dates qui s'enchaînent un peu partout.
Et à tout hasard, est-ce qu'il a été porté au regard d'enfants qui ont pu vivre cet exil, justement ?
Bah oui. Bah, alors, c'est hier, enfin, il y a la semaine dernière, si on regarde en chronologie, j'ai joué à Dijon. Et il y a un petit garçon à la fin, il y avait un garçon et sa sœur qui nous dit, bah ouais, nous, on est Syriens. Ça faisait 2 ans qu'il était là. On a vécu pas tout à fait la même chose, parce que nous, on s'est arrêté en Turquie pendant longtemps. Il parlait pas mal français. Il disait, ah ouais, ça m'a beaucoup plu. Et puis le lendemain, j'ai vu une famille syrienne avec le papa qui, avec ses 3 enfants, était en larmes. Il disait, bah, je vous ai raconté mon histoire, etc. Merci de raconter ça aux enfants d'ici, etc. Donc voilà.
Ouais. Bon, c'est chouette, du coup.
Ah ouais, non, je fais un métier magnifique.
Et t'as pu le jouer en dehors de la France ?
Non. Alors, c'est un spectacle francophone, moi je suis, voilà, mais voilà, avec plaisir, si vous avez des options, je prends.
Ok, et ben justement, nous, on la connaît la chanson, on va peut-être la réécouter pour le plaisir.
Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. À l'endroit où ils naissent, que les gens
Vous êtes bien sur Radio B 90 FM et nous sommes ce matin dans la parentèle enchantée avec Mathieu Barbance. Donc ce titre, c'est aussi le nom du spectacle, Né quelque part. Alors personnellement, s'il y a deux chansons qui m'ont fait découvrir le mot racisme quand j'étais gamin, c'est donc celle-ci, Né quelque part. Alors, j'ai grandi dans un village de Moselle de 1000 habitants. Et puis il y a Lily, forcément, de Pierre Perret. Alors pourquoi avoir choisi ce titre plus qu'un autre? Pourquoi avoir choisi Né quelque part et pas un autre titre?
Alors en fait, le spectacle, il commence comme ça. Je chante la chanson et après je dis bah c'est vrai ça, on choisit pas où on est. Alors on peut naître partout, on peut naître dans une famille de paysans, d'ouvriers ou de policiers, ou on peut naître dans une famille de riches ou une famille de pauvres. Ah ben bah, moi il y a quelques semaines, il y a un garçon qui est venu me voir et qui a commencé à me raconter sa vie. Et après je raconte l'histoire et du coup je trouvais que ça résonnait bien et puis je trouvais que ça donnait une dimension un peu plus ça ouvrait l'histoire d'un personnage, en fait c'est une histoire de chacun et chacune.
C'est que le titre original de l'histoire de Gwenaëlle Boulay, c'est Les Trois Étoiles,
Tout à fait.
Qui parle aussi en fait de l'amitié.
Enfin,
il y a plusieurs, tiroirs. Il y a le tiroir de l'amitié aussi.
Bien sûr.
Et Les Trois Étoiles, c'est que c'est un nom qui fait peut-être moins musical et qui rentre moins.
Voilà, ça donne moins de clés. Voilà. Comme moi, je voulais que le spectacle il attire les gens qui ce sujet attire. Je trouvais que ça plus intéressant que de l'appeler comme ça.
Ok, et tu as pu travailler justement avec l'auteur
Bien sûr, l'autrice, ouais. Gwenaëlle Boulay, c'est. Alors, il se trouve qu'elle a écrit ce roman-là et il se trouve qu'elle travaille aussi à Bayard Presse.
Ouais, elle est rédactrice en chef d'Astrapi.
Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a raconté que, par exemple, les J'aime lire, ça c'était très très intéressant, ils reçoivent 250 manuscrits par an. Il faut qu'ils en choisissent 12, parce qu'il y a 12 mois.
Ouais.
Et chaque mot est pesé, c'est un travail très très minutieux. Et. Sur ce roman-là, il est paru en décembre 2016. C'était un conte de Noël au départ, parce que l'histoire se passe en décembre. Et c'est la première fois que Bayard Presse a reçu autant de courriers hostiles. Ils reçoivent souvent des courriers positifs, mais là, c'est la première fois qu'ils recevaient des courriers. Ouais, il ne faut pas dire ça aux enfants, c'est pas la guerre, c'est rien. Et on sentait derrière cette histoire de racisme ambiant, et parce que ça questionnait les croyants en disant si on respecte l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est un parallèle. Si vous voulez voir le spectacle un jour, ça apparaît entre Jésus et Marie,
Joseph et Marie,
pardon, qui vont de maison en maison et qui se retrouvent dans une étable parce que personne veut. Et Marie se retrouve à coucher dans une étable. Et donc l'équipe de Bayard Presse était très heureuse quand je leur ai dit que je voulais jouer ce spectacle-là. Moi, j'avais peur qu'ils me disent il y a des droits, tout ça. Pas du tout. L'autrice m'a laissé les droits, donc il n'y a pas besoin de payer les droits à chaque fois. Et elle m'a permis de jouer dans différents endroits, comme au Grand Bornand, où j'étais allié avec le stand de Bayard Presse. Voilà.
Et donc, du coup, pour revenir sur ce titre, est-ce que toi, il y a d'autres titres musicaux qui t'ont marqué, justement, pour évoquer le racisme et les discriminations auprès des enfants?
Alors, je suis ma génération Zebda, donc j'ai beaucoup aimé les titres de Zebda. Ça va pas être possible, tout ça. J'écoute beaucoup Tiken Jah Fakoly aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas spécialement pour les enfants, mais tout le monde peut l'écouter. Ouais. Voilà, par exemple. Okay.
Et donc, c'est vrai que nous, on en parlait tout à l'heure, Cynthia, en tant que parents, nous, il y a certains sujets. On n'aborde que quand ils nous tombent dessus, en fait. Hein, parce que faire réfléchir les enfants à certains sujets, des fois, on se dit un peu que c'est une planche savonneuse. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que parent, il faut s'emparer de tous les sujets? Ou au contraire, il y a certains sujets où on peut se dire, il y a peut-être d'autres qui vont lancer la petite graine et en tant que parent, on rebondit dessus. Comment tu te positionnes
ça? Alors là, j'ai pas trop d'idées, mais il y a un truc avec ta chronique qui faisait penser à quelque chose. Parce que, peut-être que vous en avez déjà parlé, une réflexion. Ah là là, les enfants sont trop sur les téléphones portables. Et quelqu'un qui disait, en fait, les enfants, ils reproduisent ce que font les parents. Donc, si tu as des parents qui n'ont jamais leur téléphone sur le canapé après manger, Et je pense que c'est pareil pour plein de choses, y compris aussi pour accepter les différences de chacun et chacune. Si les parents sont tout le temps en train de sortir, en train d'aller dans les fêtes d'être dans une association de soutien, ça va être naturel. Il n'y aura pas, la question ne se posera pas. Et si par contre, c'est un truc qu'il faut sacraliser, etc., on va arriver à un truc un peu où on sera un peu plus mal à l'aise.
Oui, c'est vrai que l'ouverture culturelle, finalement, elle permet d'aborder plein de sujets, même en général, quoi.
Carrément.
Sur l'aspect moral, c'est comme cet été où on avait vu, toujours au Grand Bornand, décidément, on avait vu Dans ta valise de la compagnie Rêve Générale, qui s'inscrit vraiment en école là-dessus, quoi, avec une petite fille qui arrive dans une école. Et ça a permis justement d'en discuter avec les filles. Et ce qui est amusant, c'est que ce mois-ci, dans le J'aime lire, mes premiers J'aime lire, il y a l'histoire.
Il signe Hyper 6, donc c'est chouette.
Ouais, non, mais il y a toujours quelque chose là-dessus où en fait, c'est des enfants qui sont en France et ils attendent tous le Père Noël. Mais il y a un enfant, lui, ce qu'il rêve le plus au monde, c'est que son père arrive. Et finalement, il y a deux Pères Noël qui arrivent d'une certaine façon. Il y a le Père Noël et puis il y a le père de cet enfant. Ah. Et comme quoi, J'aime lire reste vraiment là-dessus. Et donc, mes premiers J'aime lire, c'est quoi? C'est 6-7 ans.
Ouais.
Ouais, c'est toujours... On en discutait avec Lou, c'était quand avant-hier dans le lit, où on en discutait. Quoi. Donc, c'est vrai que ça fait des petits déclencheurs. Et nous-mêmes, je sais que... On y aurait été, mais parce qu'il y a une situation, en fait, c'est-à-dire qu'à table, on n'aurait pas lancé le sujet. Dis-le, tu sais, ben, en Syrie, il y a une guerre, peut-être que des enfants peuvent venir dans son cas. C'est qu'à partir du moment où l'enfant n'a pas vécu, il ne s'est pas confronté lui-même au monde, c'est toujours compliqué. En fait, on est dans l'abstrait. Et là, du coup, ton spectacle, les J'aime lire, on rentre vraiment dans le concret. Quoi.
Ah, bah oui, ça, c'est la force de l'art. Ouais. C'est que ça met de la chair, ça met des images à des propos qui peuvent être abstraits. Mais moi, tu parlais d'un spectacle sur le climat, c'est pareil.
Ouais.
Des sujets comme ça, c'est ardu. Alors que si on commence à mettre du récit, si on met des images, si on met des gens qui le portent, et ben c'est beaucoup plus concret.
Et du coup, juste, j'imagine que tu as des échanges des fois avec les enfants après le spectacle.
Beaucoup.
Leur retour, c'est quoi?
Alors la première question qui revient, et je suis content parce que c'est la première question, c'est est-ce que c'est une histoire vraie? Voilà, donc du coup, je raconte que c'est une histoire, oui, presque vraie, qu'elle était romancée, voilà. Et puis après, pourquoi les copains sont séparés, pourquoi il y a la guerre en Syrie, etc. Donc il y a très peu de questions sur, c'était compliqué d'apprendre le texte, voilà. C'est vraiment sur le propos du spectacle, et c'est super, c'est vraiment, moi je suis très très heureux de faire ce spectacle-là, à chaque fois... Je m'en lasse pas parce que je le commence à beaucoup jouer. Là, justement, à Bourg, c'était super. Les enseignants, ils étaient dithyrambiques. Les élèves, ils étaient tous à fond. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont. Ça veut dire que ça gamberge, quoi. C'est sûr que ça gamberge bien.
Et en tout cas, merci beaucoup, Mathieu.
Ouais.
Et avant de se quitter, je propose d'écouter un titre en solo. Enfin, en solo, pas forcément. Ma bande.
Oui, ben voilà.
C'est quelle année, ma bande?
Eh bien, c'est. Ça fait presque 10 ans que j'ai écrit cette chanson. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu.
Merci beaucoup,
merci ma bande. À toi.
À peine sorti du ventre, me voilà déjà trois. Mon père, ma mère et moi. Découvrir la vie, le monde ensemble, apprendre, comprendre. Dans les pas de papa, dans les bras de maman, avec mon frère, nous serons quatre. Tous les quatre, c'est ma bande. Dimanche, grande tablée dans le jardin, avec les cousines, les cousins, les oncles, les tantes et les grands-mères, autour du gâteau d'anniversaire. Cette bande de gosses a s'inventé, docteur, voleur, maîtresse, pirate. Construire des cabanes sous les pommiers, rentrer tout crotté la nuit tombée. La cousinade, c'est ma bande. La classe, c'est une bande imposée. Ça va supporter les grincheux, les brailleurs, les moqueurs. Partie de pille à la récré, le bal aux prisonniers. À la cantine avec les copains, les copines, de la crèche jusqu'au lycée. La classe, c'est ma bande. Bon. grande quelquefois. Jusqu'au million, en manifestation, AG, blocage, action. Avec la force des anciens, des histoires, des bouquins que je rejoins dans ce grand collectif. Les partageux, c'est ma bande. Facile quand on était 20 de se retrouver deux sur le canapé. Et cette chaleur que notre cœur et nos corps produisent, c'est fou tout ce qu'on peut faire rien qu'à deux. Rien qu'à deux, c'est ma bande. Me voilà en âge de faire naître ma bande à moi. Dans mes pas de papa, découvrir la vie, le monde ensemble, apprendre, comprendre. Avec les deux petites et la grande, nous serons quatre. Tous les quatre, c'est ma bande. Dans les salons, les jardins, les festivals, les théâtres, faire chanter, faire danser, raconter, accompagner, faire des bonnes passes qui tâchent, jamais seul avec mes chansons et ma contrebasse.
Sûrement. Comment ça, maman? Ce soir, je dors chez des copains? Non, mais ça va pas la tête. Vouloir changer mes habitudes comme ça, faut être fou. Moi, j'ai 90 ans dans ma tête, faut pas croire. Je suis bourrée de rituels et j'aime pas en déroger. Changer de chaussures? Non. Changer de manteau? Encore moins. Toujours fermer les portes, partout, tout le temps. C'est papa qui me lève, pas maman. Léo, baba? Non, c'est moi qui passe en premier. Tu vois? Comment ça, papa, t'es pas d'accord? Quoi? Je change d'avis tout le temps? Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas le sujet. Et le sujet, justement, il est grave. Maman veut me faire dormir ailleurs que dans mon lit. J'ai papy et mamie, bon, je suis d'accord. Mais il y a quand même des limites. Là, on veut me faire dormir à la route, à quatre, dans une chambre, et tête bêche avec ma copine Léa, en plus. Bah, je l'aime bien, ma copine Léa, mais imagine qu'elle bouge la nuit. Imagine que son frère y ronfle et que Lou se mette à parler. Comment ça, j'ai trop d'imagination? Ça va aller, tu dis? Qu'est-ce que t'en sais? Ah, tu vas prendre mon oreiller et ma couette? Ouais. Je reste pas convaincue du truc, hein. Les dodos à plusieurs, pas trop pour moi. On essaye. Il y aura ma grande sœur pour me rassurer au cas où. Et une babysitter. C'est Camille. Camille, je l'aime bien. Quoi? On change de babysitter aussi? Franchement, tu m'aides pas là, maman. J'aime pas le changement, moi. Ah, et on va à une fête avant? Bon, ok, j'arrête de râler. Je suis trop contente, c'est trop bien. J'aime bien les fêtes, moi. Et surtout les bonbons qui vont avec. Il y aura des bonbons, hein? Dis. Comment ça, je suis lunatique? Allô, bébé?
Ici papa.
Oui, Zoé, les habits de Lou sont tout sales. Oui, les habits de Lou sont tout sales. Oui, j'ai entendu, Zoé. Mais pourquoi tu me répètes tout ça? Les habits de Lou sont sales, je sais. D'accord, ce que tu as à me dire, en fait, est pour ta petite tête plus intéressant que la réponse que je peux te donner, c'est ça. Je comprends. Bah oui, tu as besoin de parler, de te raconter, de t'exprimer. D'ailleurs, tu as remarqué, hein, on comprend de plus en plus ce que tu dis, hein, n'est-ce pas? Et le bateau a chaviré, oui. D'accord, mais là, ça n'a pas de sens avec ce que tu me disais avant, hein. Et tu mets ça à la poubelle, oui, si tu veux. Ah, au fait, Zoé, il est 7h50 et ça fait 20 minutes que tu es levée. Alors, on va peut-être descendre des toilettes pour aller enfin mettre la couche. Non, c'est pas fini, Moliba Makassi. Bon, je comprends pas tout, mais je crois que ça veut dire « et si je faisais perdre du temps à mes parents ?» Ça, j'ai bien compris. Tu veux descendre toute seule des toilettes? Mais vas-y, ma chère princesse, je t'accompagne. Le tabouret royal est là. Allez, on va s'habiller maintenant. Ah, un petit coup d'harmonica d'abord. Eh ben, pourquoi pas, tu seras une future musicienne. Oui, si tu veux. Tu sais, il est 7h55, c'est un petit peu tôt là pour m'apprendre la patience. Oui, c'est déjà passé 5 minutes. On voit pas le temps passer hein, quand on fait tourner en rond son papa, c'est ça? Étape suivante, on va se laver, on va mettre la couche. Toute seule, comment ça, toute seule? Oui, allez, je veux bien, moi je demande que ça, toute seule. Que tu te lèves, que tu descendes les escaliers, que tu te changes, que tu t'habilles, toute seule. Oui, Lou, je me prends à rêver. D'ailleurs, Lou, tu fais quoi là? Tu devrais pas être déjà habillée? Bon, bah, c'est l'heure, hein, faut que j'y aille. Moi, je vous laisse avec maman. Bonne journée, les filles. Ouais, d'accord. En vrai, il est 11h38. Mes chers auditeurs et auditrices, il est aussi l'heure de vous souhaiter une belle et bonne journée, car je crois bien que c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, justement.
C'était Rémi et Cynthia, la parentèle enchantée sur Radio B 90 FM. Merci à Mathieu Barbance d'être venu à notre micro. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radio-b.fr.
Ou sur notre page Facebook en tapant simplement La Parentèle Enchantée. À la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine. Bisous.